À la découverte de la richesse botanique de notre région.
Nuances de vert, votre magazine à la découverte de la nature. Pour passer un après-midi, un moment de détente dans un jardin, chaque semaine, présenté par Ophélie.
Chaque mardi de 11h30 à 12h sur Radio Alpementiel 106.3 FM.
Nuances de vert,
le magazine qui vous fera visiter pendant toute la saison estivale les parcs et jardins qui vous invitent à la balade.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine Nuances de vert. Découvrons cette semaine deux jardins qui se situent à quelques kilomètres l'un de l'autre. Le jardin de poésie à la Villa Hortense de Souligné-sous-Ballon et le jardin du textile du prieuré de Vivoin. À Souligné-sous-Ballon, la Villa Hortense vous ouvre les portes de son jardin de poésie. Avec nous, Bernadette Denet. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Alors Bernadette, vous êtes la jardinière de ce jardin et la propriétaire. Depuis quand avez-vous ce jardin?
Alors j'ai acheté la maison en 82, donc je jardine depuis cette date-là, mais d'une manière classique, c'est-à-dire comme bien sûr tout le monde fait un jardin pour le plaisir. Et seulement depuis à peu près 10-12 ans, j'ai rencontré des personnes qui m'ont mis vraiment dans le jardin dans un autre contexte.
Alors un autre contexte, comment ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
C'est-à-dire que moi j'ai un petit jardin de 1000 m² et c'est vrai que les plantes, je les voyais dans les foires aux plantes ou dans les jardineries et j'achetais comme tout le monde. Et à force de connaître plus les jardins, c'est-à-dire à force de visiter les jardins, de lire beaucoup de livres dans ce domaine, je suis devenue plus exigeante pour les ambiances et aussi pour les plantes rares. Je suis très intéressée par les plantes peu communes. Et en plus, comme j'ai un petit jardin, c'est bien aussi de se démarquer un petit peu des autres. On a chacun sa personnalité.
Alors justement, c'est peut-être pour cela que votre jardin s'appelle le jardin de poésie?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à peu près à la même époque, une douzaine d'années, j'avais une phrase dans mon jardin, enfin, dans un livre que j'avais bien sûr remarqué, qui m'avait plu, donc je l'ai mis pour m'amuser. Et ensuite, quand j'ai décidé, ça fait à peu près 4 ans, d'ouvrir au public, je me suis dit, tiens, je pourrais en mettre un peu partout. Donc j'ai fait des recherches, et quand j'ai bien sûr écrit ces petites phrases, ces poèmes sur les ardoises, je me suis dit toute seule dans ma tête, tiens, on dirait un jardin de poésie. Donc le nom du jardin est venu comme ça. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, je fais aussi chambre d'hôte. Et j'ai eu l'influence aussi des gens, des clients qui m'ont dit, on est bien dans le jardin, on a envie de se poser, prendre un livre, de méditer à l'occasion.
Alors, est-ce que vous avez des exemples de ces petites phrases de poésie que vous notez?
Une phrase qui plaît beaucoup, enfin moi qui me plaît beaucoup, il y en a plusieurs bien sûr, et c'est vrai que par cœur j'ai du mal, mais enfin quand même, si je réfléchis bien sûr je les retrouve, mais quand même il y a une phrase qui me plaît et qui plaît beaucoup aux personnes qui ne la connaissent pas, c'est de Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça, c'est une phrase un peu fétiche. Et franchement, les gens adorent.
Alors, un jardin de poésie avec de la poésie, tout ça, on a bien compris. Alors, que retrouve-t-on vous avez parlé de variétés particulières. Quels seraient en nom des variétés un petit peu particulières comme ça? Est-ce que vous avez des noms à nous citer, leurs particularités?
Oui, écoutez, j'ai une mini collection, hein, parce que je pense que dans les variétés d'hydrangea, c'est-à-dire les hortensias, il y en a énormément. Mais comme j'ai encore une fois un petit jardin, j'en ai quand même 33 différents, qui sont pas encore adultes, mais qui poussent bien et qui sont assez jolis. Donc c'est le fait d'avoir des choses comme ça variées, c'est intéressant. et j'ai beaucoup de plantes aquatiques. Alors j'ai un bassin, pas très grand, et aussi beaucoup de bassines. Bon, c'est vrai que c'est un peu à la mode, mais j'ai quand même une passion pour les plantes aquatiques que je trouve dans la nature ou bien sûr que j'achète aussi. Et c'est vrai qu'elles se plaisent bien parce que je fais vraiment attention et ça fait une ambiance aussi, ça fait partie de l'ambiance relaxante de mon jardin. Et dans les variétés, j'ai par exemple une plante qu'on m'a offerte qui s'appelle Carpenteria, une petite fleur blanche avec le cœur jaune et qui n'est pas trop connue, que je connaissais pas. J'ai un Romneia coulteri, c'est-à-dire le pavot en arbre de Californie. Donc je suis pas la seule dans la Sarthe, encore une fois, à avoir ce genre de choses, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup. Et puis plein d'autres plantes, un yucca rostrata, et le yucca, bon, il peut ressembler à un yucca qu'on a dans la maison, mais pas tout à fait quand même, parce que le feuillage est un peu bleuté, le tronc est assez gros, le mien a plus de 100 ans, puisque ça pousse 1 cm par an, et quelquefois les gens les gardent dans les serres, dans un pot, parce qu'ils ont peur du froid ou d'humidité, et le mien a 4 ans, donc, 4 ans dans le jardin. Et voilà, donc je suis assez fière parce que c'est pas évident de garder longtemps ce genre de choses.
Voilà, pour imaginer à nos auditeurs, le yucca, voilà, c'est la plante un peu exotique, dressée sur un tronc avec des feuilles assez longues, assez fines, qu'on trouve généralement chez soi à l'intérieur, puisque de base ce n'est pas une plante d'extérieur, mais il existe, voilà, les variétés qui se mettent à l'extérieur, et ça doit être très magnifique.
Elle vient du Mexique, hein, c'est... Bon voilà, pour les personnes qui connaissent, c'est facile d'en trouver là-bas. Et puis bon, il y a quelques pépinières en France qui en vendent, même quelquefois des jardineries qui font des flashs comme ça dans leur rayon pour intéresser les gens, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident à garder avec une humidité qu'on a quelquefois dans la Sarthe.
Tout à fait. Alors quelque chose aussi qui m'a interpellée, vous avez parlé d'hortensia, 33 variétés différentes dans mes souvenirs, que vous avez cité. Alors, c'est assez représentatif également, puisque les hortensias, au niveau de la couleur, c'est aussi assez délicat à garder, surtout notamment au niveau des bleus.
Voilà. Alors ici, dans la Sarthe, c'est presque jamais, très rare, de voir des bleus, parce que la terre ne permet pas, il faut une terre acide. Moi, la terre est un peu calcaire ici, donc je me bats, enfin ça fait 30 ans que je me bats pour les mettre, bien sûr. Alors j'ai commencé par des classiques, c'est-à-dire les plus classiques, c'est les macrophyllas, c'est les grosses têtes d'hortensia qu'on voit partout en Bretagne, voilà. Donc il y en a tout autour de ma maison, donc forcément ils sont tout roses. Mais maintenant que je connais un petit peu plus ces plantes, je mets dans d'autres familles, c'est-à-dire des Hydrangea serrata, des Involucrata, des Aspera, plein de Paniculata également, puis il y en a plein d'autres. Et c'est plus facile, ce genre d'Hydrangea, de les acclimater. Ils sont quelquefois moins difficiles.
Alors où est-ce que vous fournissez pour toutes vos plantes ?
Alors, dans des foires aux plantes un petit peu plus spécialisées quand même, par exemple Saint-Jean-de-Beauregard, Courson, qui n'existe plus maintenant, c'est à Chantilly, près de Paris. Il y a une foire aux plantes qui est très intéressante, que j'aime beaucoup, c'est à Domfront dans l'Orne, au mois d'octobre. La pépinière et les bords, que j'aime beaucoup aussi dans le Perche. Et puis, une pépinière d'ombre, puisque mon jardin, c'est principalement un jardin d'ombre, sous un arbre perché. Donc, cette pépinière était avant dans le Perche, maintenant elle se trouve en Bretagne. Alors, on peut bien sûr commander, puis les retrouver dans les foires aux plantes. Et aussi, des amis du Cotentin, je vais beaucoup dans le Cotentin. C'est principalement ma source pour les connaissances auprès de personnes que je connais bien, amies et connues, un peu par les médias. Et il y a une jardinerie qui se trouve à Saint-Sauveur-le-Vicomte, qui est très intéressante pour les plantes rares.
J'imagine aussi qu'on va vous offrir des plantes quand vous invitez du monde chez vous.
Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quelquefois pour certaines personnes, parce qu'ils disent, oh là là, elle va... Bon, moi j'adore le rose et le violet. Donc quand on vient chez moi, on a compris tout de suite, puisque les volets de la maison sont violets. Et c'est vrai que déjà, ça oriente les gens pour la couleur. Après, ils ont très très peur d'offrir quelque chose que j'ai déjà. Mais en principe, les gens sont doués.
Alors, est-ce que vous organisez des animations dans votre jardin ?
Oui, pour une action caritative, c'est-à-dire je fais partie de l'association Jardin Arts et Soins, et pour motiver un peu le public, là dernièrement au mois de juin, il y avait une esthéticienne qui proposait un petit massage de main, et fin août, le 23 et 24 je crois, enfin le dernier week-end du mois d'août, il va y avoir un artiste peintre du Pays Basque. Alors, lui, il fait déjà des tableaux, hein, il est très connu sur la place Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, donc c'est quand même quelqu'un qui en a fait son métier depuis longtemps. Et là, principalement, il fera des petits tableaux sur la nature pour, bien sûr, que ça soit plus sensibilisé pour le jardin. Voir d'autres artistes, bien sûr, c'est... Et puis aussi, début septembre, le premier dimanche de septembre, j'ai pour la deuxième fois un atelier écriture avec Céline Bourgoin, qui est déjà connue dans la Sarthe pour ce genre de choses. Et ça, c'est très très bien. Comme mon jardin est relaxant, l'atelier écriture est passionnant. Moi, j'ai vu les gens déjà l'année dernière, ils paraissaient vraiment très zen.
Alors, quand est-ce que vous ouvrez votre jardin? Quels sont les jours et horaires d'ouverture?
Alors, les week-ends, c'est le deuxième week-end de chaque mois, de mai à septembre. Et les horaires, le samedi et le dimanche, pareil, c'est de 14h à 19h. Merci. Et puis, bien sûr, sur rendez-vous. Si le jardin le permet, et moi, si je suis disponible, bien sûr, c'est sur rendez-vous, c'est possible.
Y a-t-il un tarif de visite?
3 euros.
3 euros. Et est-ce que vous avez un contact à nous donner pour les personnes qui désirent avoir plus de renseignements?
Ben oui, je peux donner mon adresse mail. Donc, c'est bernadette.denet. Alors, Denet s'écrit D-E-N-A-Y, @gmail.com. Non, j'ai fait un peu le tour. Et principalement, je pourrais ajouter quand même que le parrain de mon jardin, entre guillemets parrain, c'est Jérôme Gouthier, c'est un écrivain du Cotentin qui a un très beau jardin qui s'appelle La Biserie. Il est photojournaliste et il écrit beaucoup dans les revues, bien sûr, concernant le jardin. Et là, il va sortir un livre qui s'appelle La Biserie sur son jardin. Donc, c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine de l'écriture.
Merci. Eh bien, écoutez, Bernadette, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel.
Moi aussi.
On le rappelle à nos auditeurs, si ils veulent découvrir votre jardin, on le rappelle, son nom c'est Jardin de Poésie à la Villa Hortense à Souligné-sous-Ballon. Je vous remercie Bernadette, passez une bonne journée.
D'accord, vous aussi.
À bientôt, au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Nuances de Vert sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel. Évadons-nous maintenant au jardin du prieuré de Vivoin.
Allons à la découverte du jardin du textile de Vivoin, pas très loin de chez nous, avec Nathalie Monod. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un jardin du textile?
Alors c'est un jardin textile étinctorial, c'est-à-dire que nous avons des plantes qui servent à faire des tissus et des plantes qui servent à les teindre. Donc c'est un jardin qui a été créé en 2009 en collaboration avec le Bureau de l'aménagement et des plantations du Conseil départemental et le service patrimoine et politique territoriale toujours du département et puis le centre culturel de la Sarthe. En fait, dans l'enceinte du prieuré, on a voulu recréer un espace naturel évoquant ce que pouvait être également un enclos à l'époque de la vie monastique. Et on sait à travers les plans et les archives que les moines avaient des jardins d'aromates, de plantes médicinales, de potagers, des vergers. Enfin voilà, il y avait tout un tas de plantations qui leur permettaient aussi d'avoir une ressource vivrière. Mais on s'est dit, plutôt que de recréer un énième jardin de plantes médicinales ou aromatiques, d'inspiration médiévale dans sa construction, on pourrait peut-être se tourner vers des plantes qui étaient aussi extrêmement utiles, puisque jusqu'à une époque finalement assez récente, à savoir le 19e siècle, les teintures étaient obtenues de manière naturelle et l'industrie chimie n'est arrivée que tardivement dans nos possibilités de teindre nos vêtements. Et puis ça aussi un rapport à la société, ça nous apprend beaucoup de choses que d'étudier les couleurs. Et on voulait du coup proposer aux visiteurs et aux scolaires la possibilité de d'en savoir plus sur les couleurs et les teintures. Sur les périodes anciennes, que ce soit au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Et puis il faut savoir aussi qu'on est dans un coin où le chanvre a eu un rôle important et que du coup on est parti également sur la présence de plantes textiles, donc comme le chanvre ou le lin.
Alors moi justement j'allais vous demander de nous citer quelques variétés. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres variétés un peu moins communes donc plus peut-être dans les plantes que vous avez citées, dites tinctoriales.
Alors écoutez, en fait elles sont assez communes puisque c'est des plantes qu'on trouve dans nos jardins, sur nos bords de route. Enfin, elles ont été choisies justement parce qu'elles étaient assez locales, assez présentes et puis qu'on les retrouvait dans des écrits, qu'on en avait des traces historiques. Mais par exemple, on a du pastel. On a des bleuets des champs qui peuvent permettre de teindre. On a donc le chanvre pour le tissage, le topinambour aussi qui peut être utilisé et qui permet d'avoir une couleur jaune doré jusqu'au roux, voire le bronze olive. Il y a de la cardère à foulon, il y a donc le lin aussi pour le textile. Il y a du sureau aussi qui peut être utilisé, il y a les verges d'or, il y a pas tellement de plantes extraordinaires. On se rend compte que toutes peuvent être utilisées, enfin beaucoup peuvent être utilisées par leurs racines, leurs fleurs, les pétales, les feuilles ou les tiges. Voilà, le pavot par exemple, le pavot c'est on en trouve dans nos champs plutôt sous la forme de coquelicot, mais on a les deux, donc pour coquelicot et pavot, il y a le millepertuis également. Enfin vous voyez, il y a plein de plantes qu'on connaît et que dont on n'envisage pas forcément l'utilisation comme plante tinctoriale. Mais peut-être que vous avez vu des noms qui vous intriguaient.
Alors moi ce qui m'a intriguée, c'est la tanaisie.
La tanaisie, oui. Alors, la tanaisie, c'est une plante qui permet d'obtenir un jaune citron, un jaune vif ou bien aussi un jaune brun et qui a été utilisée par les teinturiers au XVIIIe siècle notamment et qui donc donnait des couleurs assez solaires, assez lumineuses. En plus de ses capacités à être une plante également médicinale, puisqu'il y avait la tanaisie joue un rôle sur les intestins. Voilà, donc c'est une plante qu'on trouve qui est une plante vivace, qui a une forte odeur aromatique, qui a un feuillage assez joli, assez fin, qui est douce au toucher et qu'on peut retrouver sur nos talus ou sur les bords de rivière quand elle est à l'état sauvage.
Alors, comment s'organise ce jardin ?
Alors, il s'organise en 9 carrés plessés. Vous avez donc, vous pouvez circuler autour de ces 9 carrés. Chaque plante est identifiée à son nom d'inscrit sur une petite ardoise et vous avez un grand panneau à l'entrée du jardin qui vous permet de les situer dans ces carrés-là.
Alors, 9 carrés, ça représente à peu près combien de variétés ?
À peu près une quarantaine de plantes qui sont à découvrir dans ces carrés, à sentir, à toucher, à observer.
Alors, chaque plante a une fiche. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette petite fiche ?
Alors, on trouve son nom commun, son nom botanique, la description de ses origines. Par exemple, le cosmos, vous allez apprendre que c'est une plante d'origine d'Amérique centrale ou du sud des États-Unis. On indique également les parties qui vont être utilisées pour la teinture. Donc par exemple pour le cosmos, on reste sur cette fleur. C'est une fois que les fleurs sont épanouies, on en fait la cueillette. Donc c'est plutôt au début de l'été et jusqu'aux premières gelées. Ensuite, on va vous donner la couleur qu'on peut obtenir grâce à cette plante. Toujours sur cette fiche du cosmos, vous allez apprendre que on peut faire de l'orange vif et on peut aller jusqu'au rouge orangé. Voilà. Et que, par exemple, cette plante, au niveau historique, vous allez avoir des infos pour l'utilisation, par exemple, de marquages de rang social, on va ou de minorité, on va vous distinguer par telle ou telle couleur. Je pense au jaune, il a été imposé aux Juifs d'Europe de porter pendant toute une période des chapeaux de couleur jaune. L'aristocratie avant le XIIIe siècle, les seigneurs, la population aisée ayant le pouvoir, utilisaient le rouge. Le bleu est venu plus tardivement. Voilà, on va vous raconter un peu de l'histoire de ces plantes dans leur rôle qu'elles ont pu jouer pour la teinture et ce qu'elles pouvaient représenter. Voilà comment se distinguent les fiches. Donc vous avez une petite photo, les illustrant, leur emplacement dans le jardin. Et puis vous pouvez avoir ces fiches en main quand vous vous baladez sur demande.
Alors où se situe le jardin dans le cœur du prieuré ?
Il est à l'arrière du prieuré par rapport à l'entrée principale. Il donne sur le verger. Il est à proximité du cloître. Donc c'est un endroit plutôt agréable qui est abrité de l'ombre quand il fait bien chaud, qui est abrité de l'ombre des pommiers. Il est donc à côté du cloître sur l'arrière du bâtiment.
Alors le prieuré, c'est également un espace naturel à découvrir et un verger. Est-ce que vous pouvez nous en parler vu que vous venez de le citer?
Alors, effectivement, le terrain actuel du prieuré correspond à peu près à l'enclos, c'est-à-dire au terrain clos que le prieuré a possédé. Et donc, sur cet enclos, il y a donc différentes zones d'observation possibles où la nature est, je pense, assez préservée puisqu'on arrive à avoir des espèces qui reviennent, des espèces végétales et animales qui reviennent sur ces lieux-là pour se reproduire et puis pour proliférer, enfin pour se développer. Donc on a le jardin textile, on a un verger qui compte à peu près 4-5 variétés de pommes dont on fait un jus qui est proposé à la dégustation quand on fait certaines animations. Donc il n'y a pas de traitement sur tout ce terrain-là, il n'y a aucun entrant, il n'y a aucun pesticide, c'est une gestion raisonnée de ces espaces-là. Il y a donc une grande prairie. Il y a également une prairie de fleurs sauvages où là aussi il y a eu une réflexion sur ce qu'on souhaitait mettre pour favoriser la venue de différents pollinisateurs et qu'ils puissent se développer, se nourrir tout au long de la saison avec donc des fleurissements étagés et avec des périodicités différentes. Donc là, c'est au fond du terrain. Et puis, on a une zone humide aussi qui se trouve être sur l'ancien vivier du prieuré et qui a été agrandi lors des aménagements de l'autoroute A28. Et donc là, vous avez du coup des plantes aquatiques, une faune aussi particulière en lien avec l'eau. Et vous pouvez en faire tout le tour. Il y a une petite passerelle en bois qui a été aménagée pour passer le rue en plus. Du petit pont de pierre qui surplombe le rue qui descend vers la Sarthe. Et puis sur cette zone-là, il y a une ruche de sauvegarde qui a été installée et qui est occupée. Donc on peut aussi observer les abeilles dans cette zone du prieuré.
Alors, donc dans l'ancien vivier des moines, on retrouve le sentier d'interprétation, on retrouve également des fiches.
Oui, exactement. Il y a 4 postes, 4 lieux dans la zone où vous pouvez vous informer sur les espaces qui ont été inventoriées, que vous pouvez trouver, observer. Donc, faut prendre du temps là si vous voulez les voir. Faut être discret et puis faut prendre son temps pour pouvoir observer différentes espèces animales et puis évidemment la végétation c'est plus simple. Elle est là. Après, bon, il faut le coup d'œil selon les moments de l'année où vous venez puisque on a des représentations des plantes quand elles sont en pleine floraison ou en pleine végétation. Donc si vous venez vous balader l'hiver, il va falloir après vous atteler à la reconnaissance des écorces ou des plantes qui l'hiver sont un peu moins exubérantes.
Alors par exemple, pour citer, j'ai devant les yeux le triton palmé. Alors, oui. On retrouve quoi par exemple sur cette fiche ?
Alors sur la fiche du Triton, donc sur cette fiche, on va retrouver son habitat, donc déjà une photo, son nom commun, son nom scientifique, et donc son habitat et son alimentation. Alors sur le Triton palmé, par exemple, on vous explique que c'est une espèce relativement pardon commune qui se développe dans de multiples lieux, notamment dans les mares stagnantes ou dans des courants lents. Voilà, vous pouvez aussi les observer dans les fossés. Plutôt dans un milieu boisé, pour quand il passe de sa phase aquatique à sa phase terrestre. Et puis on vous donne des informations également sur son alimentation. Donc s'il y a du triton palmé, ça veut dire que derrière il y a des crustacés dans l'eau qu'il fréquente, évidemment des insectes, des œufs d'autres amphibiens. Et parfois, paraît-il, qu'ils mangent aussi leurs propres œufs. Voilà. Donc, vous allez apprendre différentes choses sur ces petites espèces aquatiques qui vont se développer dans notre vivier et dans cette mare qui prend des tailles différentes selon les saisons. Là, elle est très envahie, par exemple, par la végétation aquatique. Donc, l'eau est très stagnante en ce moment.
Alors, vous avez également mis en place les haies plessées.
Alors, tout à fait. Il y a même des ateliers qui sont organisés avec le CAUE pour expliquer aux gens comment faire des haies plessées sur leur terrain et quel intérêt ces haies peuvent avoir pour justement accueillir une faune un peu différente. Ou en tout cas plus diversifiées que celles qu'ils peuvent avoir habituellement. Et donc, ils ont des ateliers qui sont proposés une fois l'an. Et ce qui nous a permis, nous, de redessiner un peu le plan de la zone humide en faisant des fermetures ou bien des points de vue sur le prieuré. Et c'est une haie qui est vivante et qui va se développer et créer en fait un habitat supplémentaire pour les espèces animales.
Alors moi, avant de conclure avec vous cette interview, j'aimerais qu'on ajoute quelques mots sur la jachère de fleurs sauvages, puisqu'elle est également organisée en différents rectangles.
Tout à fait. On a donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on donne la possibilité aux pollinisateurs de pouvoir se nourrir tout au long de l'été de nectar différentes et de permettre une pollinisation aussi de cette jachère. Donc en fait, on a 10 carrés qui sont organisés avec des mélanges de fleurs différents.
Alors quand est-ce qu'on peut visiter le jardin du prieuré?
Alors le jardin se visite tout au long de l'année, il est ouvert tout au long de l'année, sans aucune restriction, en accès libre. Vous pouvez vous balader à tout moment. Alors évidemment, l'hiver, vous aurez une autre vision, vous verrez l'architecture des grands arbres, c'est assez joli. Il y aura évidemment pas la jachère de fleurs sauvages. Le jardin textile et tinctorial sera également un peu en sommeil parce que nous avons des annuels. Les vivaces sont là, mais les annuels, évidemment, on est obligé de les replanter et ça se passe plutôt au mois de mai. Donc, vous aurez une autre vision. Le bâti sera beaucoup plus dégagé, mais vous pouvez venir l'hiver parce qu'il y a des ciels et des couleurs qui sont vraiment très chouettes et on a des perspectives très intéressantes. Et ensuite, à partir du mois de mai, tout ça se réveille et vous avez les pommiers en fleurs, vous avez les jachères de fleurs sauvages qui se colore. Alors ça va du rouge au bleu en passant par le blanc selon les étapes, donc il y a des chouettes photos aussi à faire à ce moment-là entre mai et septembre.
Eh bien, je vais tout simplement terminer en vous demandant un contact si des personnes sont intéressées pour en savoir plus sur ce jardin qui vaille plus de renseignements.
Alors ils appellent directement le prieuré au 02 43 97 04 36 ou en consultant le site internet du prieuré www.prieuredejuivoin.sarthe.com.
Merci Nathalie. Eh bien écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alphemoncel. On vous souhaite une très bonne continuation.
Merci beaucoup.
Passez une bonne journée.
Pareil, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Votre magazine Nuances de Vert est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.